hein, le professeur Patrick Tougnon, qui est chef du service de nutrition à l'hôpital Trousseau à Paris, et la médecin nutritionniste Alexandra Dalu. Bonjour tous les deux.
Bonjour et bonjour à tous.
Bonjour professeur. Alors, professeur, on va commencer avec vous pour parler nutrition, bien sûr, nutrition en bébé. Hein, vous répondrez, on le rappelle, uniquement sur la pédiatrie. Alors, le bébé qui n'a pas encore lâché son biberon commence à goûter des plats préparés. Je pense aux frites, aux pizzas. Et il y a des chercheurs qui ont découvert, que c'était pas forcément super bon. Alors, vous n'êtes pas trop d'accord. À partir de quel âge bébé peut manger comme un adulte ?
Jusqu'à un an, un enfant doit consommer soit du sein, le sein, donc le lait maternel, soit du lait infantile, et ceci à raison de soit 4 tétés par jour, soit 3 biberons par jour. Ça veut dire que jusqu'à un an, la quasi-totalité de ses besoins est assurée par le lait maternel ou le lait infantile. À partir d'un an, il faut que l'enfant soit continue à téter, mais c'est quand même assez rare, soit boive un biberon de lait de croissance pour assurer notamment les besoins en fer, et ensuite, il peut manger comme ses parents.
D'accord.
Il y a des plats industriels qui proposent des recettes spécifiques jusqu'à 3 ans, c'est quasiment que du pur commerce, à condition que l'enfant boive son biberon de lait de croissance.
D'accord. Parce que sur le port, je pense au sel, hein, notamment, sur le plan des apports en sel, on juge la dérive parfois inquiétante, hein, au regard des normes admises. Alors, entre 1 et 3 ans, un enfant ne devrait pas consommer plus de 1000 mg, c'est ça ? Ou 1 gramme de sel. En se mettant à table avec les adultes, ils consomment des doses plus importantes.
Alors, comme c'est le thème du jour, on va d'emblée planter le décor.
Oui.
Il est évident que tous les excès sont mauvais. L'excès de sel, l'excès de sucre, le pire étant l'excès de légumes, c'est-à-dire le végétalisme. Donc, tous les excès sont mauvais. Donc, mon propos ne sera jamais de favoriser et d'encourager les excès.
Voilà.
En revanche, passer à l'autre extrême, c'est-à-dire l'abolition totale, comme certains le suggèrent, c'est tout aussi stupide, pas dangereux.
Dangereux aussi, parce que le corps d'un enfant a besoin aussi de tous ses apports pour se construire et pour
Vous avez raison, l'abolition totale, mais le sel, on en trouve notamment dans d'autres aliments, c'est-à-dire, là je parlais du sel condiment, c'est-à-dire le sel qu'on ajoute dans les aliments. Donc ma recommandation, elle est très très simple, et elle repose sur l'expérience, mais aussi la lecture de tous les travaux scientifiques. J'encourage les parents à ajouter modérément, j'ai bien dit modérément, du sel dans les plats qu'ils préparent à leurs enfants, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est leur réhausseur de goût. C'est un réhausseur de goût, et au lieu de faire de parler de toutes ces peurs qui sont irraisonnées, voire injustifiées, eh bien, il faudrait dès le plus jeune âge, encourager les enfants à apprécier le plaisir culinaire. C'est la même chose pour le sucre. On ne doit pas donner trop de sucre pour pas déséquilibrer l'alimentation, mais ajouter un petit peu de sucre dans les petits suisses, ajouter un petit peu de sucre dans des compotes un peu amères qu'on a fait maison, franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. Là encore, la littérature scientifique est très claire là-dessus. Il n'y a pas d'addiction au sucre. On ne va pas favoriser une appétence accrue pour le goût sucré en faisant ça. Et il faut donc être raisonnable, mais surtout pas extrémiste dans l'autre sens.
Non, ça fait du bien d'entendre vos propos, professeur. Quand on est parent de jeunes enfants, ça fait du bien, parce que c'est vrai que l'alimentation en général, mais celle des enfants encore plus, elle suscite de nombreuses recommandations et parfois contradictoires, puisqu'il y a certains de vos confrères qui vous disent qu'il ne faut absolument pas ajouter de sel dans les mets que vous confectionnez pour les petits. Il y a des fabricants, vous l'abordez tout à l'heure, hein, des industriels qui vantent la réduction de la teneur en sel de leurs produits, et c'est vrai que nous, parents, on a quand même des fois du mal à faire le tri, quoi. Donc ça fait du bien d'entendre ces propos.
Et je le répète, aucune preuve scientifique, parce que ce qu'on avance, c'est qu'on va augmenter l'appétence pour le goût salé et le goût sucré. Ça n'a jamais été démontré. Et même si c'était le cas, c'est pas dramatique. Et deuxièmement, pour le sel, on dit oui, si on met trop de sel très tôt dans la vie, on va favoriser l'hypertension artérielle plusieurs décennies plus tard.
Oui, c'est ça que je pensais.
Aucune étude ne soutient ce dogme. Donc, et je parle pas du sucre, où là, c'est une véritable phobie injustifiée. Donc, encore une fois, mon propos n'est pas de dire lâchez-vous, sel à tous les repas, sucre partout. C'est raisonnablement, modérément, mais sûrement.
Alors, on a une question d'une auditrice. Professeur, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur les ondes d'RCFM. J'aime beaucoup votre franc-parler. Le pédiatre de mon fils me dit de ne pas lui donner de protéines le soir, car ses reins ne sont pas formés pour. On arrive aux protéines, hein, Michel. Professeur.
Alors déjà, une petite correction, le mot protéine est mal adapté, et les pédiatres, la preuve, l'utilisent. Les légumineuses, certains végétaux contiennent beaucoup de protéines. Donc, on remplacera le mot protéine par produit carné.
Voilà,
parce que c'est souvent ça que ça veut dire, mais c'est un mauvais terme de dire des protéines. Ça, c'est juste une petite correction. Donc, est-ce qu'il faut donner des produits carnés matin et soir à l'enfant? Tant qu'il boit du lait de croissance, ça n'est pas utile, ça n'est pas nécessaire. Donc, on peut lui donner une fois, voire zéro. Mais dès qu'il arrête le lait de croissance, c'est-à-dire vers 3 à 6 ans, l'enfant devra consommer des produits carnés midi et soir, deux fois par jour. C'est une recommandation de la Société française de pédiatrie pour notamment assurer les besoins en fer. Et puis j'en viens à la question, est-ce que consommer trop de protéines altère la fonction rénale? On n'a pas de réponse scientifique à ça, puisqu'il n'y a eu aucune étude qui va dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, toutes les études disponibles qui ne répondent pas parfaitement à la question sont tout à fait rassurantes. Et donc j'affirme aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison de penser que donner trop de protéines à un enfant jeune altère son rein et fait le lit d'une insuffisance rénale ultérieure. Donc là encore, comme pour le sucre, comme pour le sel, n'exagérons pas, on ne va pas donner de la viande en permanence, ça n'est pas toxique, mais ça déséquilibre l'alimentation. Mmh. Et raisonnablement, je répète, une fois par jour suffit jusqu'à l'arrêt du lait de croissance, jusqu'à 3 à 6 ans. À l'arrêt du lait de croissance, c'est-à-dire vers 3 à 6 ans, deux portions carnées par jour jusqu'à 18 ans.
Donc, tant qu'ils boivent du lait, c'est pas obligatoire, mais c'est possible quand même.
Parce que c'est possible, si on veut donner de la viande midi et soir, ça n'a aucune toxicité.
Enfin, de la viande, peut-être pas... de la viande à midi ou un poisson le soir, c'est pas toxique, quoi.
Absolument pas toxique de donner de la viande deux fois par jour. Je rappelle aussi que, comme on parle de protéines, les produits laitiers sont presque oui. plus riches pour certains que la viande en protéines.
Mais d'ailleurs, on va parler d'où est-ce qu'on trouve les protéines, on va en parler. Hein. Donc en fait, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a aucune raison vraiment sérieuse pour limiter les apports en protéines ou en produits carnés chez le nourrisson et chez le jeune enfant, on est bien d'accord. Hein.
Aucune. Et je l'affirme et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Certaines études le suggèrent, elles sont mal faites, elles sont totalement biaisées et d'autres études qui sont rarement citées contredisent les données, notamment en termes d'obésité. Heureusement, c'est assez peu diffusé, c'est pour ça que j'hésitais à en parler, mais certains prétendent que ça peut rendre obèse. L'étude la principale qui prétend ça est un modèle de biais méthodologique, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a des techniques de recherche, et quand parfois certaines de ces techniques ne sont pas bien suivies, eh bien, on aboutit à des résultats, mais qui ne sont pas fiables. C'est ça que ça veut dire.
Bon, ben voilà, comme ça c'est très clair. Je pense qu'il fallait le faire. On va parler un petit peu après d'où est-ce qu'on trouve des protéines. On va saluer Alexandra qui est avec nous. Alexandra, bonjour. Alexandra Dalu, médecin nutritionniste.
Bonjour. Bonjour. Professeur, cher confrère, donc docteur Dalu, endocrino nutritionniste. Ouais.
Voilà.
Alors, déjà, je voulais vous remercier de donner la parole à des ce que vous appelez les experts en santé, ce que nous on appelle, en l'occurrence, professeur en médecine et médecin pour moi, parce qu'en fait, je pense qu'on est un peu dans la tempérance. Et j'aime bien les propos du professeur. C'est exactement les propos que j'ai avec mes patients, c'est-à-dire qu'on est trop dans l'extrême, dans l'orthorexie, hein, ce qu'on appelle l'orthorexie, à force de vouloir peut-être trop bien faire, on ne sait plus comment faire. Et
c'est exactement ça, Alexandra. c'est exactement ça.
Dans l'extrême salé ou dans l'extrême sucré, à un moment donné, c'est presque mathématique, évidemment, qu'il y aura des conséquences sur la santé. Mais quand on est modéré, il n'y a aucune raison, hormis une pathologie. Hein, je viens de vous dire mon métier. Nous avons des enfants qui sont diabétiques, nous avons des familles de diabétiques. Il ne faut pas oublier qu'on est la génération aussi génétique. Donc, quand on pose des questions à nos patients, on se réfère aux antécédents familiaux qui sont très très importants pour nous désormais. Et il y a d'autres pathologies que le diabète, bien entendu. Il y a des problèmes de thyroïde. Vous avez également des problèmes au niveau des surrénales. C'est des petites glandes qu'il y a sur les reins. Donc il y a plein de maladies. C'est pour ça que quand on m'interviewe, je dis toujours en tout cas aux auditeurs ou aux lecteurs, de voir un médecin, en tout cas pour faire un bilan hormonal, si justement la nourriture est à peu près correcte, quand il y a une activité physique pareil, à peu près correcte, et que il y a une prise de poids avec très souvent d'ailleurs d'autres symptômes, hein, de la fatigue, parfois des dépressions également. Donc il faut faire attention à ça, et l'alimentation n'est pas le seul responsable de la prise de poids ou de problèmes cardiovasculaires. En tout état de cause, il est évident aussi que il y a là pour le coup des études sans biais, et je félicite aussi mon confrère pour dire qu'il y a en effet des études qui sont biaisées. On changera pas le monde, plutôt que d'être utopique, il vaut mieux être réaliste. Il faut pas trop de sel dans l'alimentation, donc on peut féliciter aussi l'agroalimentaire qui en met moins, mais c'est pas un petit peu de sel rajouté justement pour donner l'envie à l'enfant ou aux gens en général de bien manger qui va donner de l'hypertension artérielle. C'est un petit peu plus complexe que ça quand même.
Heureusement. 0,4,95.
J'ai écrit le bouquin Les 100 idées reçues, hein, qui vous empêche d'aller bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de dogmes, pour reprendre le terme du professeur.
0,4,95, 32.
C'est-à-dire que chez l'adulte, moi je ne suis pas spécialiste, mais certaines pathologies nécessitent un régime contrôlé en sel et en sucre. Mais pour les bien portants, c'est pas la même chose. Mais dans certains cas,
exactement,
pour un régime contrôlé en sel et en sucre. Et
tout à fait.
Alors j'ai une question. Alors je vous rappelle 04 95 32 22 22. Hein, Patricia vous accueille au standard pour vous, toutes vos questions, vos témoignages, si vous voulez échanger avec nos experts du jour. J'ai une question d'un auditeur. Je suis d'une famille où il y a beaucoup de problèmes d'hypertension et j'ai débuté un régime paléo. Pensez-vous que je puisse éviter de souffrir d'hypertension, Serge?
Alors déjà, je conseille
on va déjà expliquer ce que c'est un régime paléo, docteur.
Bon, bah, le régime paléo, c'est un terme pour rejoindre un petit peu le régime méditerranéen crétois, qui pour le coup est le régime préconisé en médecine, en evidence-based medicine, puisque c'est un régime très équilibré qui apporte justement les bonnes protéines animales, les fibres via les végétaux. Il n'y a pas tellement de sucre, il y a des bons gras avec cette fameuse huile d'olive, mais il y a aussi de l'huile de noix. Donc il y a un peu de tout dans le régime paléo, et il y a un peu moins de sucre raffiné, c'est-à-dire que on n'est évidemment pas soda, il n'y a pas tellement d'alcool, il n'y a pas de trop de jus sucré, les fruits sont consommés sans être cuits en compote, etc. Donc le régime paléo est assez intéressant, mais ce qui se rapproche de ce régime qui est bon pour la santé en général et pour tout le monde.
Donc on se rapproche vraiment des besoins primaires de l'organisme, quoi, en fait, hein.
Exactement. Donc, alors, du coup, je conseille à ce monsieur déjà de peut-être voir un cardiologue pour faire une épreuve d'effort, et puis pour le rassurer, ou si le cardiologue voit qu'il y a des risques importants en fonction aussi de son poids, de son bilan sanguin. Hein. Il y a différents tests à faire. Il y a ce qu'on appelle le Holter tensionnel. Hein. Sur 24 heures, on va voir s'il a une bonne moyenne au niveau de sa tension. Et puis, vous avez également d'autres tests qui peuvent être faits avec des échographies pour voir si le sang est bien fluide, et vous avez encore d'autres tests comme le score calcique, s'il est au-dessus de 35-40 ans, pour voir s'il y a des risques de faire AVC ou crise cardiaque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, justement quand on fait partie d'une famille avec des risques cardiovasculaires, de faire vraiment le point avec son médecin traitant, puis le cardiologue avec des machines.
Toujours, hein, on rappelle, on ne se met pas au régime tel qu'il soit sans avoir l'avis d'un médecin. Hein.
Bah, encore une fois, le régime paléo, c'est un régime où il y a de tout. Donc c'est pas un régime. Le mot régime, si vous voulez, il a pris une ampleur, ça devient presque un abus de langage. Vous avez un régime alimentaire qui est défini par quelque chose. Vous voyez, on parle de régime flexitarien, c'est juste que ça veut dire flexible. Mm-hmm. Voilà. Le régime crétois méditerranéen, c'est la même chose. Paléo, c'est la même chose. Et après, vous avez d'autres types de régimes. Mais le mot régime en lui-même n'est pas forcément un qualificatif pour dire que vous êtes en hypocalorie, en fait.
D'accord.
Voilà.
Alors, 04 95 32 22 22 pour toutes vos questions à nos experts. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Question Les réponses de nos experts sur RCFM.
Et bienvenue dans Les Experts, si vous nous rejoignez, c'est Christine Allouz. Je suis ravie d'être avec vous et avec nos experts. Jusqu'à 10h30, on parle aujourd'hui des régimes sans gluten, sans lactose, sans viande, sans sucre. Bref, est-ce que les régimes sans font plus d'adeptes, hein, de plus en plus? Est-ce qu'ils sont intéressants pour notre santé, oui ou non? C'est notre dossier du jour. Je suis en compagnie du professeur Patrick Tougnan, chef du service de nutrition à l'hôpital Trousseau à Paris, et de la médecin nutritionniste Alexandra Dalu. Alors, on a une question, je vous rappelle, hein, nous sommes en direct. Donc 04 95 32 22 22. Patricia vous accueille au standard. Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux comme vous faites, c'est parfait. Claude nous envoie un message. Mon enfant boude la viande, dois-je continuer à lui en présenter de temps à autre pour qu'il s'y habitue, nous demande le professeur.
Ah oui, oui. Encore une fois, la viande fait partie des trois piliers essentiels avec les produits laitiers et le poisson de l'alimentation de l'enfant. Donc, il faut continuer, mais toutes les viandes sont possibles. Il n'y a pas que la viande rouge. Il y a la viande blanche, il y a le poulet, il y a le jambon, les charcuteries. Toutes les viandes sont possibles, du poisson deux fois par semaine. Donc, s'il n'aime pas la viande rouge, il y a sûrement des moyens de lui proposer d'autres types de viande. En revanche, j'en profite, parce que c'est très très à la mode, les steaks de soja ne peuvent en aucun cas remplacer un steak de viande.
Ah, voilà, oui,
en aucun cas.
Oui, parce que c'est vrai que il y a deux mots aussi, hein, puisqu'on parle de ça, mais sur des aliments qui ont tendance à être vus comme de très bonnes sources de protéines, mais qui en fait n'en sont pas. Hein. L'hummus et le tofu soyeux, leur teneur est absolument insuffisante, professeur, pour un repas.
Alors c'est important que vous me posiez cette question, parce que on parle beaucoup des contenus en protéines. Il faut savoir une chose, dans notre pays, dans tous les pays industrialisés, il n'y a pas de carence en protéines. Donc, les protéines ne sont pas un problème. C'est un problème dans les pays en voie de développement. Mais dans notre pays, même les végétaliens, qui ne consomment donc aucun produit d'origine animale, ne sont pas carencés en protéines. Donc, peu importe les sources de protéines, il n'y a pas de bonne source, il n'y a pas de mauvaise source, parce que même les végétaliens, parce qu'ils associent souvent céréales et légumineuses, vu la quantité énorme de végétaux qu'ils ingurgitent, ne sont pas carencés en protéines. Donc il ne faut pas se préoccuper des sources de protéines dans nos pays industrialisés.
Donc, on a bien compris, hein, et on mange des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, c'est quand même essentiel, hein, au bon développement de l'enfant. Mais entre 3 et 18 ans, les besoins en protéines ne sont évidemment pas les mêmes. Professeur, comment on sait qu'on donne la bonne portion à son enfant ?
Volontairement, lorsque nous avons fait les recommandations pour la Société française de pédiatrie, nous n'avons pas donné de volume. C'était pour le faire. Et je crois que ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de carence, on vient de le dire. Mm-hmm. Il n'y a pas non plus de risque d'excès. Donc, vaut mieux être simple en disant, voilà, une portion carnée suffit jusqu'à l'arrêt des laits de croissance, éventuellement zéro s'il en consomme beaucoup, de lait de croissance. Mais à partir du moment où il arrête le lait de croissance, eh bien, c'est deux portions carnées. Ça n'a pas une grande importance. Je sais que beaucoup de pédiatres de parents sont très attachés aux quantités. Je ne recommande pas, et d'ailleurs, dans le livre que j'écris sur l'alimentation du nourrisson de l'enfant de 0 à 3 ans, que j'écris et que je mets à jour régulièrement parce qu'il est beaucoup utilisé, j'insiste bien et je ne donne pas de proportion de protéines. Alors, on donne des exemples de menus avec des quantités de produits carnés, mais en précisant bien que s'il en mange davantage, ça n'a aucune espèce d'importance.
D'accord, parce que alors moi j'ai fait, je suis en plein dedans, hein. J'ai vraiment acheté, j'ai trouvé un truc génial, ce sont des dosis en fait, c'est 5 cuillères doseuses, et ça vous aide à donner les bonnes portions de légumes, de féculents, de protéines en fonction de l'âge du bébé. Il y a un guide avec qui est fourni, et c'est de 4 à 24 mois, et c'est ma petite assiette qui a développé ça, et je trouvais ça génial, parce que c'est vrai que, alors vous avez un discours qui est très déculpabilisant, vous avez un discours, c'est super de vous écouter, parce que du coup les parents qui sont super stressés, ils le sont beaucoup moins, mais c'est vrai que il y a des pédiatres qui sont pas du tout comme vous et qui disent voilà, c'est 2 cuillères à soupe et pas plus, ou 2 cuillères à café, et c'est vrai que les parents ils peuvent être assez perdus, surtout quand c'est le premier, quoi.
Alors je corrige quand même, il faut pas par exemple donner que des légumes ou que des produits carnés. Donc ces proportions peuvent être intéressantes pour distribuer, équilibrer.
Voilà.
L'alimentation.
Si je te permets, ça donne un repère visuel qui peut, en effet, voilà, pour le premier enfant, donner
un repère visuel, c'est toujours intéressant. Hein. Mais je rappelle aussi qu'un enfant, hormis s'il a un problème de santé, il est à même de vous dire s'il a faim ou pas. D'ailleurs, le bébé vous le dit aussi.
Oui, hein. Tout à fait.
Donc, je rappelle aussi qu'on peut simplement dire qu'un enfant mange aussi à sa faim.
Non, mais je parlais simplement au niveau de, enfin, comment dispatcher, voilà, l'apport en protéines, l'apport en féculents, l'apport en légumes. Et c'est vrai qu'on nous donne comme ça des, on nous dit, voilà, 2 cuillères à soupe.
Oui, c'est basé sur des milligrammes kilo poids par 24 heures, en fait, qui sont aussi valables pour l'adulte sportif, pour la femme enceinte et la femme allaitante. Donc, je présume que cette société a dû fabriquer des repères visuels qui reproduisent, approximativement, ces 12 kilos poids par 24 heures. D'apport nécessaire pour ce qu'on appelle le turnover protéique, c'est-à-dire que dans votre organisme, vous avez donc des protéines hein, qui sont à la base de la fabrication de la peau, de vos organes, etc. Et puis tous les jours, ça se détruit, donc tous les jours, il faut les renouveler. Mais comme disait le professeur, dans nos pays chanceux, il n'y a pas de carence. Hein.
Mmh. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça cool parce que du coup, ça m'a apporté effectivement un dosage et j'ai trouvé
super,
ça bien. Et puis en plus, apparemment, ça a été élaboré avec des professionnels de santé, donc je me dis que c'était sérieux. Bon, je vous mettrai un lien dans ma story Instagram, comme d'habitude, si vous voulez le trouver, c'est cool.
Alors, donc, faut pas s'affoler si on dépasse. Ce qu'il faut, c'est des proportions relatives.
Voilà, garder des proportions.
C'est-à-dire de pas donner que de la viande ou que des légumes. Donc, il faut des proportions relatives. Et comme vous dites très bien, la régulation de l'appétit chez l'enfant est absolument parfaite. Et dès qu'il a plus faim, il s'arrête. Donc, si par exemple, on a commencé par les légumes et qu'on met la viande après et qu'il a plus faim, il va pas la manger. D'où l'importance quand même des proportions relatives. Mais sans être inquiet sur les excès potentiels.
Ah, alors, tenez, vous venez de dire quelque chose, je rebondis dessus. Comment on fait une assiette à l'enfant, on lui met tout dans l'assiette ou est-ce qu'on commence par quelque chose? Par exemple, s'il n'a pas d'appétence particulière pour les légumes, est-ce qu'on commence par lui donner les légumes pour être sûr qu'il les mange? Comment on fait, professeur?
On peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire chez le tout petit, on va bien sûr mélanger parce que ça va être une purée.
Oui, bien sûr.
Par la suite, on peut les séparer. Par contre, un point important, chez les enfants, et ils sont fréquents, qui refusent les morceaux.
Ah oui.
Chez les enfants qui refusent des morceaux, d'abord, juste un mot de prévention, pour éviter que ça arrive, c'est une situation assez fréquente, il faut très rapidement passer de la texture lisse, c'est-à-dire de la nourriture mixée, à une texture moins lisse, qu'on appelle moulinée, un tout petit peu moins lisse, dès 8 mois.
Voilà.
Dès 8 mois, il faut passer à ça, et vers 10-12 mois, commencer à mettre des tout petits morceaux dont on augmente la taille petit à petit. Donc, faut pas faire de nourriture lisse jusqu'à un an, voire un an et demi. Ça, c'est la prévention. Maintenant, quand on ne l'a pas fait et que l'enfant refuse des morceaux, une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est cacher les morceaux dans la purée. C'est-à-dire mettre une purée, puis à l'intérieur, mettre des petits morceaux, en disant comme ça, il va pas s'en apercevoir. Là, c'est très important, à ce moment-là, de bien séparer la purée lisse des morceaux à côté, pour ne pas que l'enfant soit suspicieux et qu'il, petit à petit, s'habitue aux morceaux et, au bout d'un certain temps, les accepte. Mais sinon, pour les enfants normaux, j'allais dire, qui n'ont pas de soucis de ce côté-là, on peut faire ce qu'on veut. Après tout, je crois qu'il faut être assez libéral là-dessus.
Il faut écouter l'enfant. 04 95 32 22 22, on parle régime sang aujourd'hui. Si vous voulez témoigner ou poser vos questions, vous nous appelez 04 95 32 22 22.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Nathalie Morgadino, à Clé-Souilly, en région parisienne, nous dit pourquoi.
La première chose, je commande des lunettes aussi bien pour moi que pour ma fille. Elle était toute petite, donc c'était très important d'avoir affaire à quelqu'un de patient, de sympa, de souriant. Elle a toujours été de très bons conseils. Deuxième chose, c'est leur compétence. Hein, j'ai jamais eu aucun souci sur les verres, ni pour moi, ni pour ma fille. Et puis, j'ai pu bénéficier de l'objectif zéro dépense. Et bien sûr, c'est un plus.
Stéphanie Séhara, l'opticienne Optique 2000 de Madame Morgadino, à Clé-Souilly.
Pour nous, la priorité, c'est l'accueil, bien sûr. Et puis de proposer à nos clients des verres français avec une prise de mesure personnalisée. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers pour nos clients.
Alors Madame Morgadino, contente d'Optique 2000?
Très, et en plus il gère toute la partie papier pour moi.
Optique 2000, c'est les leaders français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Pour aujourd'hui, éclaircies et passages nuageux alternent dans le ciel tout au long de la journée. De faibles pluies surviennent à la mi-journée sur le relief. En fin d'après-midi, libèche ou violent dans le Cap Corse avec des rafales atteignant 130 km/h. Température maximale voisine de 24 à 27 degrés et 17 degrés sur le relief. CFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Caroline Philippi, bonjour.
Bonjour, l'Assemblée de Corse fait sa rentrée demain. Elle devrait se pencher sur la problématique de la violence après les récents assassinats et actions qui ont visé des villas ou encore des établissements et aller même plus loin avec une session extraordinaire. C'est le souhait du conseil exécutif qui s'est réuni hier. Son président Gilles Simeogne a adressé un courrier au président de l'Assemblée de Corse, à ceux des différents groupes, pour soumettre l'idée avec un délai d'organisation qui permettrait d'y associer la société civile. De son côté, Corinne Fronte appelle à un rassemblement et un débat le 29 septembre à l'Université de Corse sur le campus Marianne. Par ailleurs, des pochoirs à l'effigie de son militant assassiné à Cargès et Massimo Susini ont été taqués à plusieurs endroits à Bastia. 30 personnalités lancent aujourd'hui un collectif anti-mafia. Elles sont issues de tous les secteurs d'activité. À leur tête, Léo Battesti, Vincent Carlotti. Leur objectif, inciter la population à sortir du silence et monter au créneau contre le système mafieux. Ce collectif va donc dévoiler cet après-midi à 15h à Ajaccio ses propositions. Et puis dans ce contexte, Nicolas Coppola, 18 ans, a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à un an de prison, sans mandat de dépôt. Il a été arrêté le week-end dernier en possession d'un pistolet automatique 9 mm chargé. De leur côté, Adrien Mataris et Julien Mouzelli, interpellés aussi vendredi dernier en possession d'une arme de poing et d'un gilet pare-balles à Bastia, ont été mis en examen pour infraction à la législation sur les armes, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Ils ont été placés hier en détention. Enfin, Paul-Marie Bartoli, le maire de Propriane, comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour complicité de prise illégale d'intérêt. La prescription des faits plaidée par la défense a été retenue et a évité tout jugement. L'affaire remonte à 2011. Le conseil municipal de Propriane a délibéré en faveur de la vente d'un terrain communal. Vente réalisée 2 ans plus tard auprès d'un couple de particuliers et revendue une semaine seulement plus tard au fils d'une adjointe pour une promotion immobilière. Une construction aurait donc été réalisée. Dans la foulée, le promoteur, lui, comparaîtra l'année prochaine.
Merci Caroline Philippe. Merci Caroline Philippe. On vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Vous rénovez votre maison, venez bénéficier de conseils neutres, gratuits et personnalisés pour économiser l'énergie. Particulier ou professionnel, le réseau des espaces info-énergie de Corse répond à vos questions en matière d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable ou d'aide financière. Vostro spazio info-énergie accompagna e vi sostiene in der rinnovazione e l'amélioration energetica di vostro alloggio. Soutenu par l'ADEME et l'Agence d'aménagement durable d'urbanisme et l'énergie de Corse, les espaces info-énergie sont membres du réseau Rénovation Info-Service. Info au 04 95 72 13 25 ou sur infoenergie-corse.com.
France Bleu aime le cinéma.
Et voilà le propriétaire des Grands Bois.
Pierre a repris la ferme de son père.
On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète. Hein.
20 ans après, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi, mais les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail.
Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec.
Une saga familiale d'après une histoire vraie avec Guillaume Canet. Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon. Actuellement au cinéma, les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christina Loudzi, les experts.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec nos experts, le professeur Patrick Tougnon, chef du service de nutrition à l'hôpital Trousseau à Paris, et le médecin Alexandra Dalu, médecin nutritionniste. On parle aujourd'hui des régimes sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans sel. Bref, est-ce qu'ils sont intéressants pour notre santé? C'est notre dossier du jour.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et on a un appel, Marie d'Ajaccio. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour nos experts.
Mais, oui, voilà. J'ai une petite fille de 6 ans.
Oui.
Qui, à part pâtes, semoules, pommes de terre, quelques légumes, ne mange pas de viande, pas de poisson. Vraiment, c'est désespérant. Est-ce que ça peut lui porter préjudice à sa croissance? Je voudrais savoir.
Alors, question pour le professeur Tougnon.
Oui, merci madame, et un grand bonjour, oui, bonjour à Ajaccio, une magnifique ville que j'adore. Donc, oui, un enfant a besoin de produits carnés, donc il faudrait... Elle mange rien du tout, même pas de jambon, même pas de poulet.
Le jambon, c'est très très rare.
Ça arrive, autant c'est généralement les légumes que les enfants n'aiment pas, ce qui est moins grave que de ne pas aimer la viande, mais il faut lui proposer, et sinon il faut montrer à votre pédiatre pour être sûr qu'elle n'est pas carencée en fer. Certains enfants peuvent ne pas manger de viande et ne pas être carencés en fer, parce qu'ils absorbent de manière anormalement élevée le fer végétal, et c'est peut-être parce qu'elle n'a pas besoin de fer. Elle fait partie peut-être de ces enfants qui absorbent énormément le fer qui est contenu dans les végétaux, qui n'est pas le cas de la majorité de la population, et donc elle ressent peut-être le besoin. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir votre pédiatre, de voir si elle est carencée en fer ou pas. Si elle l'est, ben, il faudra soit lui donner de la viande, soit la supplémenter, et puis si elle ne l'est pas, ben, quand elle grandira, elle consommera de la viande. Mais globalement, la viande fait partie des piliers alimentaires qu'il faut assurer chez l'enfant.
Et vous disiez, Marie, elle mange des pâtes, de la semoule, mais elle mange des légumes aussi?
Oui, quelques légumes, pas tous les légumes, mais courgettes, pommes de terre, carottes, potirons, des choses comme ça.
Oui, c'est pas très riche en fer tout ça.
Voilà. Pas des brocolis, mais c'est très très rare.
Et elle mange des œufs ou pas?
De temps en temps, mais une petite omelette, rien qu'un œuf comme ça battu.
Ça vous désespère, Marie, hein?
Pardon?
Vous êtes désespérée?
Oui, c'est désespérée, oui, parce qu'en plus, vous ne savez jamais quoi lui faire. Si on la met, on l'a mise à la cantine en croyant qu'elle aurait, en compagnie des autres enfants, elle aurait mangé, mais elle reste sans manger.
D'accord. Et le professeur vous demandait, vous mangez, vous et votre mari, de la viande, du poisson?
Mon mari, il la mangerait même au petit déjeuner, la viande. moi, je... Le veau et le bœuf, j'en mange pas.
D'accord.
Voilà. Mais je mange énormément de poissons, je mange des légumes, enfin tout le reste, oui. À part la viande, la viande, bœuf et veau, je... Voilà.
D'accord. Donc, professeur, vraiment qu'elle se rende chez son pédiatre pour voir si elle n'est pas carencée,
oui,
en fer.
D'accord.
Voilà. Parce que ça reste quand même la carence principale, oui, de l'enfant. Et dans mon expérience, c'est presque toujours parce que les enfants ne consomment pas assez de produits carnés. Mais encore une fois, certains enfants absorbent tellement bien le fer végétal qu'ils peuvent s'en sortir.
Oui, parce
sans.
Elle est dégourdie, elle est bien, elle est...
Bon, on vous laisse vérifier. Et puis le professeur Tougnon est souvent notre invité. Vous pourrez le rappeler et vous nous donnerez des nouvelles, Marie, hein.
D'accord, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
Merci Marie, bonne
et
journée à vous.
Merci,
bonne journée, au revoir.
Une bonne journée. Alors, elle disait, je voudrais juste rebondir sur les propos de Marie. Elle disait qu'elle-même ne mangeait pas de viande, pas de bœuf. Il y a des études, notamment sur l'épigénétique, qui dit que la mère transmet un petit peu ses goûts à l'enfant, à la mère et le père. Est-ce que ça peut avoir un rapport à tous les
deux?
Oui,
ma question n'était pas anodine.
Oui, ben oui, non, mais je sais bien.
Non. Je m'en suis douté. Au-delà de l'épigénétique, je crois que c'est juste des habitudes alimentaires. Cette dame, manifestement, n'a pas envie de manger de viande, de bœuf et de veau. Et donc inconsciemment, il a une espèce de dégoût et elle peut l'avoir transmis à sa fille, malgré l'appétence carnée de son mari.
D'accord, voilà. Donc du coup, ça peut être une explication. On a un autre appel. Claude, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, madame.
Moi, je voulais savoir, parce que bon, on entend tout et rien, nous avons deux petits-fils qui sont jumeaux et qui ne mangent aucun sucre, c'est-à-dire aucun soda, aucun fruit, aucun. Et par contre, ils adorent les légumes. Ils n'aiment pas les légumes sucrés, carottes, courges, betteraves, enfin bon, voilà. Tout ce qui est à base, enfin, qui a du sucre, ils n'en mangent absolument pas. Ma fille s'était inquiétée, fut un temps, elle a demandé au pédiatre et elle lui a dit non, il n'y a pas de souci, ils grandissent bien et tout. Donc, je voulais savoir si c'était normal ou.
C'est pas anormal, on peut vivre sans manger de sucre. C'est
d'accord.
Pas autant la, les produits carnés, les produits laitiers ou le poisson sont assez incontournables, autant ne pas manger de sucre. J'allais dire, c'est dommage, ils profitent pas de certains plaisirs gustatifs, mais on peut totalement vivre sans manger de sucre. Votre fille n'est pas du tout, elle se restreint pas au niveau des sucres, elle a pas une espèce de phobie autour des sucres.
Elle aime bien le chocolat, elle aime bien les sucrés, oui, c'est sûr.
Non, mais elle ne se restreint pas au niveau du sucre, votre fille.
Ah non, pas du tout, non.
Ouais, ton mari non plus.
Non plus.
D'accord.
Non, et bon, c'est les seuls enfants que l'on connaisse qui ne mangent aucun bonbon, aucun soda, absolument rien, quoi, que de l'eau plate.
Quel âge ont-ils ?
Ils vont avoir 12 ans bientôt.
Ah oui, alors il y a peut-être, parce qu'il y a aussi certains endoctrinements qui se font à l'école ou par des amis, et vous savez, on parle beaucoup de la phobie du sucre. Mais encore une fois, on peut vivre.
Ah donc non, mais eux, c'est depuis la naissance, hein, quand on s'en est aperçu, quand il a fallu leur donner quelques compotes toutes petites à 5-6 mois, là, on a commencé à leur donner des compotes et de là, on s'est aperçu que tout ce qui était sucré, ils n'aimaient absolument pas, ils n'aiment pas.
Ah non, parce que là, j'avais pas tout compris. Si ça a commencé extrêmement tôt, il y a certaines maladies pas graves. Qui amène des troubles digestifs quand on mange des produits sucrés. Alors, c'est peut-être un peu barbare le mot que je vais dire, mais c'est ce qu'on appelle le déficit en saccharase, isomaltase. On a aussi parfois des intolérances au fructose. Bon, c'est un peu compliqué, mais je les prononce quand même pour ceux qui peuvent comprendre. Et là, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que si ils ont une de ces deux pathologies, qui sont des pathologies bénignes, eh bien, la première fois qu'ils ont mangé du sucre, ils ont eu des troubles digestifs. Et donc ils ont emmagasiné cette idée que le sucre est associé à des troubles digestifs et ils en sont dégoûtés. Là encore, la nature est très bien faite et la nature nous pousse vers les aliments dont on a besoin, mais aussi nous rejette les aliments qu'on ne tolère pas.
Donc, oui, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas absorbé la compote. C'est uniquement quand on leur a donné la cuillère sur le bout de la langue, ils l'ont tout de suite rejetée. Hein. Ils n'ont pas, disons, avalé.
Ben écoutez, ça devient encore
l'estomac
n'a
pas réagi
alors.
À ce genre de produit, quoi.
Ça devient encore plus compliqué, mais encore une fois, rassurez-vous, ils n'auront aucune carence en
d'accord.
mangeant pas de produits sucrés.
D'accord, ok. Bon, merci beaucoup.
Merci
bonne
beaucoup,
journée.
Claude. Bonne journée. Au revoir. 04 95 32 22 22. On parle ce matin régime sans sur RCFM. Patricia vous accueille au standard et vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages sur les réseaux sociaux. Une question pour Alexandra. Je ne suis pas végétarienne ni végane, mais je n'aime pas la viande. Par quoi est-ce que je peux remplacer pour ne pas être en manque de protéines ? Décidément, tout le monde a peur d'être en manque de protéines. Hein.
Bah, autant pour un enfant ou un jeune enfant, je pense que c'est intéressant, pour reprendre ce que disait le professeur, de faire des mélanges, d'essayer de le rendre curieux via aussi ce que nous on peut avoir comme goût. Autant pour un adulte, enfin quand j'ai un patient, je vais pas, on n'est pas là nous les médecins et qui que ce soit à forcer les gens à manger quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc si elle n'aime pas la viande, pour le coup c'est une question totalement de goût. Bah il y a plein d'autres choses. Il y a le poisson, il y a les crustacés. Dans certaines régions du monde, on prépare les insectes. Vous avez, on parlait tout à l'heure des légumineuses, du tofu. Donc il y a plein d'autres sources. Et puis il y a aussi les produits laitiers. En France, on est gâté avec tous ces fromages, ces yaourts. Donc il ne faut pas du tout qu'elle s'inquiète. Et il faut qu'elle aille tranquillement vers la nourriture qui lui plaît.
Voilà, donc pas d'inquiétude, Vanina, simplement remplacer la viande par d'autres produits, mais du poisson ou des sources de protéines végétales. On a une autre, c'est un témoignage. Depuis que j'ai arrêté le gluten, je digère mieux, nous dit Caroline. Alors il y a beaucoup, on parle beaucoup du sans gluten en ce moment. Pourtant, il n'y a aucune étude qui montrent vraiment qu'on a intérêt à se passer du gluten si on n'est pas atteint d'une maladie cœliaque, hein, enfin une pathologie à l'origine.
Alors, la maladie cœliaque n'est pas rare, hein, c'est à peu près 3%, donc c'est absolument pas rare, mais après, il y a des preuves. Pour avoir une maladie cœliaque, d'abord, il y a une prise de sang, et puis il y a surtout une coloscopie avec une biopsie, c'est-à-dire que le gastro-entérologue, quand il va mettre la caméra, il va aller prendre un petit morceau de la muqueuse pour l'étudier, pour savoir s'il y a une maladie cœliaque. C'est exactement la même chose pour les rectocolites hémorragiques et la maladie de Crohn. Donc, auquel cas, puisqu'il y a des risques de cancer après, il y a un régime sans gluten strict. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils sont mieux sans gluten parce que, je reprends un peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être aussi dans l'extrême. Et là, pour le coup, c'est juste de la logique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mange que des pâtes, le jour où il se met à manger du riz, des légumineuses, des légumes, il se sent mieux. Bah oui, forcément, il se sent mieux puisqu'il est passé de tous les jours des pâtes ou pizza ou quiche à une nourriture plus végétale, donc plus riche en fibres, donc plus intéressante pour le transit et puis pour plein d'autres choses, hein, puisqu'on sait aussi que les fibres, ça augmente l'immunité. Et si l'immunité est augmentée, on a moins d'infections, on est plus en forme. Aussi qu'il y a un axe entre l'intestin et le cerveau, et que quand un intestin se porte bien, entre guillemets, bien, ça fait un peu science-fiction comme ça, mais ça envoie des messages positifs au cerveau, donc on est de meilleure humeur. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on passe d'une extrême à une autre et on se dit, tiens, je suis mieux sans gluten. C'est peut-être, on est mieux à manger plus équilibré, plus varié.
Tout simplement.
Ensuite, c'est vrai aussi que il y a beaucoup d'immunologistes qui travaillent sur différents types de gluten et à l'heure actuelle, on ne sait pas tout, il faut rester humble. Il y a des gens qui peuvent quand même avoir non pas la maladie cœliaque, mais des genres de petites allergies, des petites intolérances. Donc, ils vont le ressentir et généralement, c'est pas que pour le gluten. Il y aura d'autres aliments qui supporteront moins bien. Et il y a des dosages sanguins pour pouvoir faire comprendre aux patients pour quelles raisons une alimentation n'est pas adéquate pour sa santé. Et encore une fois, il y a des bilans pour ça. C'est pas un leurre marketing comme on appelle ça un peu dans notre jargon. C'est pas quelque chose qu'on s'impose, c'est quelque chose qu'on va entre guillemets découvrir avec l'aide de son médecin, souvent des gastro-entérologues ou des immunologistes.
Il y a des intolérances au gluten, professeur, chez les enfants?
Oui, j'allais d'ailleurs rajouter, parce que l'hypersensibilité au gluten, effectivement, la maladie cœliaque est une maladie rare, hein, c'est à peu près 0,5 à 1% de la population, alors que l'hypersensibilité au gluten, ça peut aller jusqu'à 6% de la population. Donc c'est quoi l'hypersensibilité au gluten? C'est des gens, enfants comme adultes, qui disent, moi quand je mange du gluten, je vais pas bien, quand j'en mange pas, je vais mieux. Mm-hmm. Et comme le disait le docteur Dalu, il n'y a aucun examen biologique qui permet de confirmer ça. C'est purement ce que dit les parents. Donc, parfois, c'est un simple effet nocebo, mais la principale raison de ça, et le docteur Dalu l'a suggéré, c'est ce qu'on appelle l'intestin irritable. L'intestin irritable, qui est une pathologie extrêmement fréquente, c'est les gens qui ont des troubles digestifs, 10 à 20% de la population, c'est énorme. Mm-hmm. Et cela, certaines exclusions, dont l'exclusion des céréales et du blé, améliorent leur état. Et donc, ils retirent le blé, ils se sentent mieux. Et donc, ils disent, moi, je me sens mieux quand je n'ai pas de gluten. En réalité, c'est pas le gluten en lui-même qui est responsable, mais le blé, entre autres, mais on peut retirer aussi d'autres aliments. Donc là, c'est une véritable pathologie. Et comme le disait aussi le docteur Dalu, parfois, c'est les véritables allergies. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a aucun élément pour pouvoir démontrer ces allergies. Mais tout ça pour vous dire que certaines personnes qui disent, moi, quand je retire le gluten, je me sens mieux, c'est pas des fous, ils vont vraiment mieux, et c'est parfois soit un intestin irritable, soit des allergies dont on n'est pas encore capable d'en déterminer l'origine, et sans aucun examen ne permet de le confirmer, mais il faut les croire, et puis comme on peut vivre sans manger de gluten, eh bien, moi, quand je vois pas mal d'enfants, d'adolescents qui viennent me voir, je lui dis, écoute, si tu veux pas manger de gluten, tant pis pour toi, ça va être compliqué, mais on n'a aucune carence nutritionnelle quand on mange pas de gluten. Donc, après tout, pourquoi pas ne pas manger de gluten? Mais il faut éliminer quand même, le docteur Dalu le disait, la maladie cœliaque. Mmh. Chez l'enfant, on n'est pas obligé de faire de fibroscopie pour faire des biopsies duodénales. On peut faire juste des examens sanguins. Et d'ailleurs, je pense que ça va évoluer bientôt chez l'adulte. Et deuxièmement, il faut éliminer une allergie, une vraie allergie. Mais malheureusement, on a très, très peu d'éléments pour pouvoir l'éliminer. En faisant des examens biologiques. Mais une fois qu'on a éliminé ça, il faut croire les patients. Et puis encore une fois, on peut vivre sans manger de gluten. Comme le disait le docteur Dalu, la maladie cœliaque impose des régimes sans gluten stricts pour notamment éviter les cancers. Et ils n'ont aucune carence nutritionnelle. Donc j'allais dire tant pis pour eux, parce que le gluten est présent partout dans notre alimentation.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Mais enfin, c'est comme tout à l'heure les produits sucrés. On peut vivre sans manger de gluten.
Voilà. 04 95 32 22 22. Vous nous appelez au standard pour poser toutes vos questions à nos experts. Vous continuez à nous envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Comme Juan qui nous dit, je fais un régime céto depuis quelques mois et j'ai depuis très mauvaise haleine. Pensez-vous que ça puisse être lié?
Oui, mais je pense qu'on a le temps de répondre, mais oui. Hein.
Bien sûr. Bon, déjà, on va expliquer, les problèmes d'haleine, ça se passe aussi de temps en temps chez le dentiste et chez le médecin, parce qu'il faut voir aussi s'il y a des causes autres, comme des gastrites. Il y a des tests qu'on fait au laboratoire qui s'appellent le test Elikit pour voir s'il n'y a pas une petite infection au niveau de l'estomac, qui se traite pendant une semaine avec des antibiotiques.
L'hélicobactère. Je l'ai eu, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc voilà, pilera pendant 7 jours. Et après, oui, ça peut être simplement l'écorce cétonique. Il faut savoir pour quelle raison elle a envie de faire le régime cétogène, qui est très utilisé au Canada pour les gens qui malheureusement ont un cancer, puisqu'on sait que le sucre n'est pas une très bonne chose pour les cellules cancéreuses. Donc c'est sûr que le régime cétogène, dans son cas, si elle le supporte pas très bien, c'est pas une bonne idée. C'est pas très agréable d'avoir une mauvaise haleine, oui, et pour soi et pour les autres. Après, elle s'hydrate peut-être mal. Et puis le régime cétogène ne dit pas qu'il n'y a plus de sucre. Il y a encore beaucoup de confusion là-dessus.
Il y a très peu de glucides. Beaucoup de graisse et de protéines dans le...
Alors, déjà, il y a encore une fois des protéines, mais beaucoup de végétaux. Il y a beaucoup de végétaux dans le régime cétogène. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, sont généralement des fruits comme le citron, les agrumes, des fruits rouges qui n'ont pas trop de sucre. Mais encore une fois, cette histoire de mauvaise haleine, elle est due ou à un problème qu'elle avait ultérieurement, ou le fait qu'elle ne s'hydrate pas suffisamment aussi.
Donc, pas du tout à cause du régime, hein?
Si, ça peut être en effet, si elle mange beaucoup trop de protéines, de gras, et qu'elle est déséquilibrée par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, ça peut être quelque chose qui
une réaction du corps,
arrivé,
en fait.
Qui soit arrivé.
Et surtout les corps cétoniques, qui donnent cette odeur d'acétone,
ouais, bien sûr. Voilà.
Qui explique sûrement la mauvaise haleine. Hein. C'est l'acétone, ça sent l'acétone.
Oui, l'acétone.
La pomme amère.
Juste un mot chez les enfants.
Oui.
Parce que c'est très à la mode, les régimes cétogènes.
Oui.
Les seules indications validées chez l'enfant sont, un, les épilepsies qui résistent au traitement médicamenteux, et encore, les neurologues ne sont pas tous d'accord entre eux. Et deuxièmement, certaines maladies métaboliques rarissimes sur lesquelles je n'insisterai pas. Mais aucune autre indication validée chez l'enfant.
D'accord, donc en fait, ce régime, il est vraiment proposé dans des cas vraiment rares.
Alors, pas forcément rare, hein, parce que le cancer, malheureusement...
Non, je parle au niveau de l'enfant, pour le professeur.
Pour l'enfant, l'épilepsie, oui, il faut surtout pas arrêter le sucre chez l'enfant. Ça, après, vous avez des troubles du comportement alimentaire, en fait. Hein, c'est important pour l'enfant d'avoir une alimentation variée, avec des goûters. Je me permets d'insister là-dessus.
Vous faites bien.
Parce que on voit quand même beaucoup d'adultes qui ont arrêté tous les sucres, mais parce que ils ont été traumatisés quelque part par toutes ces idées reçues.
Oui.
Encore une fois, c'est l'extrême qui pose un problème. C'est pas parce qu'il y a un enfant qui va avoir des petites céréales sucrées de temps en temps, ou bien des goûters un peu junk food, fast food, que ça va avoir un impact sur sa santé au long terme. Bien au contraire, un enfant à qui on va refuser des tas d'aliments va quand même avoir une tendance, hein, c'est pas à chaque fois, mais avoir une tendance à développer des troubles du comportement alimentaire une fois qu'il sera adolescent et adulte. On a tout intérêt à être un peu plus souple.
Je crois que tous les parents qui nous écoutent, ils vont m'adorer, ils vont me dire, mais elle sélectionne ses experts, ils nous déculpabilisent, c'est génial.
Non, bon, voilà, j'ai eu des miel pop, des frosties et du Nutella au goûter.
Et vous êtes toujours là, Dieu merci.
Et je suis toujours là. Et
j'ai vu votre photo, et effectivement, vous n'avez aucune conséquence, en tout cas physique.
Merci, professeur. Non, mais c'est ce que, en plus, je dis à mes patients, et à mes patientes, reprenez un petit goûter avec vos enfants. Alors après, évidemment, si vous êtes constamment en train de boire du soda, qu'à la place d'un... enfin, quand on essaye d'avoir son assiette équilibrée, avoir un petit dessert, un fruit, évidemment, si à chaque fois c'est une crème brûlée, si à chaque fois c'est une mousse au chocolat, si à chaque fois c'est une tarte de fruits... Bon. C'est, encore une fois, c'est l'extrême. C'est pas un ou deux écarts dans la semaine. D'ailleurs, c'est ce que vous montre en recherche la calorimétrie. Il faut que ce soit un apport conséquent journalier. Hein, donc, tous les jours, vous mangez trop par rapport à la dépense pour que, au bout de la semaine, vous ayez formé de la masse grasse. Donc, voilà. Faut quand même y aller, parce que bon, les enfants en France, il y a quand même du sport à l'école. Voilà, il y a plein d'associations aussi qui font faire du sport à l'enfant. C'est quelque chose de développé maintenant dans notre pays qui prêche l'activité physique pour l'enfant. Donc, il lui faut aussi un petit peu d'énergie, et puis il faut, entre guillemets, une énergie vive. Donc, un goûter sucré, c'est quelque chose qui va lui faire du bien, et puis, encore une fois, qui fera qu'il ne développera pas de troubles du comportement alimentaire.
Oui, et puis, bon, voilà, on a tous mangé un goûter, mince.
Je dire alimentaire, jamais avant les repas, jamais au début du repas, mais voilà. Toujours après le repas. Et effectivement, comme le disait le docteur Dalu, le goûter est un repas plaisir. Donc ceux qui disent non, pas de pain au chocolat, tu vas prendre du pain et du chocolat, ça n'a aucun sens scientifique. Il faut prendre du plaisir et du plaisir quotidiennement. Voilà. Nous, on boit un café, c'est pas de la nutrition, c'est du plaisir. Parfois, on boit un verre de vin quotidiennement, c'est pas de la nutrition, c'est du plaisir. Les enfants, ils ont le droit aussi. Mais pas pour la même chose, hein. Pas de vin.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Du café, d'ailleurs.
Non, bien sûr. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandra, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu tous ces messages qui ont créé cette phobie, quelque part, du sucre, du sel, des matières grasses, alors qu'en fait, il faut juste manger. La quantité mesurée, enfin, il ne faut pas rentrer dans la démesure, et à ce moment-là, ça pose aucun problème.
Ouais. Alors, je pense aussi, si vous voulez, que ce qui se passe, c'est que depuis l'e-commerce, qui est une bonne chose, hein, il y a eu moins d'activité physique dans le monde, et que comme l'apport alimentaire n'a pas vraiment changé. Là encore, c'est un peu mathématique. Les gens ont consommé la même chose, mais on fait moins d'activités sans parler de sport. Donc ça, c'est une des causes. Hein, quand vous avez des datas qui explorent l'explication de l'explosion quand même du diabète de type 2, d'autres pathologies comme la stéatose. Hein, c'est vrai aussi qu'en France, c'est la première année où il y a de la stéatose chez l'enfant. Ça veut dire du foie gras. Donc ça, c'est quand même une maladie...
Non, je vous arrête. Parce que c'est justement pas du tout. Moi, ça fait 30 ans que je vois des enfants obèses et la stéatose, ça a toujours existé.
Oui, ça a augmenté. Après, les nombre, quand je veux dire.
Donc, ça a toujours existé et je peux vous assurer que ça n'augmente pas plus. Ce qui augmente, c'est que. Parce que la prévalence de l'obésité des enfants est stable depuis plus de 20 ans. Par contre, tous ces enfants qui étaient obèses deviennent des adultes obèses et donc on a une augmentation et un diagnostic qui est mieux fait. Mais chez l'enfant, ça n'augmente absolument pas. Hein. La stéatose,
justement. Non, là, je parlais des adultes, justement, où il y a une augmentation du nombre de surpoids et d'obésité. Ça peut être une explication par rapport à ce que vous disiez, que l'enfant qui va avoir un problème de poids, bah, ça peut être évidemment un adulte qui va garder ce problème de poids, voire empirer.
On avait fait un sujet sur l'obésité que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast hein, sur notre site internet France Bleu RCFM. Je suis désolée, on va devoir couper. C'est super intéressant, on aurait pu rester et parler encore et encore, mais on en fera d'autres, promis, parce qu'il y a des questions, il y a encore des questions qui arrivent, mais on ne pourra pas malheureusement toutes les traiter. 10h30, c'est la fin des experts. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup professeur Trouillant, merci Alexandra Dalu d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve demain pour les experts.
France Bleu RCFM.